qu'en est-il par rapport aux promesses de Dieu? Est-ce que ça nous arrive aussi parfois d'être déçus parce que Dieu fait une promesse, puis il me semble qu'il ne l'a pas tenue? Les choses n'arrivent pas. Et puis là, on se pose des questions. Alors, on croit que Dieu est fidèle, on croit que Dieu est bon, qu'il est juste, qu'il est amour, qu'il tient ses promesses, que sa parole, elle est vraie. Et puis, parfois, ben, on est obligé de constater qu'il y a un décalage entre ce qu'on a cru, espéré, et puis ce qu'on vit. Et puis là, il y a des interrogations, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu, est-ce qu'il est vraiment fidèle? Est-ce qu'il tient ses promesses? Et puis, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, Dieu accomplit ses promesses, mais, trois petits points, voilà. Alors, on va voir ce que c'est que ce mais. Et on va essayer de comprendre ce matin ce qui se passe. Et je vais développer quatre points. Mais avant ça, il y a trois manières, bon, il y en a peut-être plus, hein, mais trois manières principales de nos réactions lorsqu'on est confronté à ça. Peut-être, surtout si on est jeune dans la foi, la première réaction, c'est peut-être d'être déçu, découragé. Et puis, on se dit, bon, ben, finalement, à quoi bon prier? À quoi bon lire la parole? Parce que dans la parole, il y a plein de promesses, mais si elles ne s'accomplissent pas, à quoi bon? Alors, on se dit, ben, finalement, on s'éloigne de Dieu, parce qu'on se dit, ça ne vaut plus la peine de prier, ça ne vaut plus la peine de lire la parole. Et finalement, on prend de la distance par rapport à Dieu. Comme lorsque, peut-être, un ami nous a déçus profondément, ben, on va peut-être moins voir cet ami être lié avec lui. Hein. Il y a une distance qui se met. La deuxième réaction, c'est de prendre sur soi. Parce qu'on sait que Dieu est parfait, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas de sa faute à lui, ça doit être de la nôtre, forcément. Donc, on se dit, le problème doit venir de nous. Peut-être on n'a pas assez prié, peut-être on n'a pas persévéré, peut-être on aurait peut-être dû jeûner. Ou bien, il y a peut-être des péchés cachés, puis c'est pour ça que Dieu n'accomplit pas ses promesses pour nous. Ou bien, il y a peut-être encore des idoles dans notre vie, il y a des choses qui prennent plus de place que Dieu, puis Dieu, il n'est pas très content avec nous. Ou on ne mérite pas l'exaucement, ou bien peut-être on aurait dû faire ceci, ou faire cela, ou pas faire ceci ou cela. Enfin, on peut se condamner soi-même finalement, se culpabiliser, mais on n'a pas vraiment la solution. Ou bien alors, peut-être on va laisser la question de côté. On se dit, bon, on ne comprend pas, peut-être un jour on aura une réponse, si ce n'est pas ici-bas, ben c'est dans l'éternité. Puis on met tout ça dans un tiroir, on referme le tiroir, et puis on se dit, bon, ben on continue à marcher avec le Seigneur, mais c'est plus difficile, hein. On est peut-être moins motivé, on a moins de zèle. Il y a toujours quelque chose qui reste, une petite rancune, une petite amertume, quelque chose qui nous dérange. Alors, on va voir maintenant les quatre points. Il y aura passablement de versets bibliques. On verra si on arrive à tout lire. Alors, la première chose, c'est les conditions. Alors, peut-être qu'on oublie que les promesses de Dieu, la plupart du temps, elles sont assorties de conditions. Hein. Dieu met des conditions pour que ses promesses se réalisent. Et il y a trois mots qui résument ces conditions. Le mot obéissance, le mot foi et le mot persévérance ou patience. Persévérance ou patience, c'est un peu la même chose. Hein. C'est, d'ailleurs, dans le grec, c'est le même mot. Et on va prendre l'exemple d'Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham, mais on va même plusieurs promesses. Mais pour que ces promesses se réalisent, eh bien, il y avait certaines conditions et on va voir comment Abraham a obtenu ses promesses parce qu'il a rempli ses conditions. Dans Genèse 12, les versets 1 à 7, l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Donc on voit toutes ces promesses que Dieu fait à Abraham. Promesses d'avoir une descendance alors qu'il n'avait pas d'enfant et qu'ils étaient déjà âgés. Promesses de posséder un pays et promesses de bénédiction pour lui et pour les nations. Mais la première condition, c'était « quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai ». Donc c'était ça la condition. Et Abraham a rempli cette condition, il est parti et il est allé là où Dieu le guidait. Et on voit que donc il a obéi à Dieu. Et puis la deuxième condition, c'était aussi de croire que Dieu allait lui donner une descendance. Et là, il fallait vraiment de la foi, parce qu'il était déjà âgé, sa femme était stérile aussi, était aussi âgée. Mais on voit qu'il a cru, et on peut lire dans Romains 4, les versets 18 à 22. Romains 4, « Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. » Voilà, on voit la foi d'Abraham. Et la troisième condition, c'était la persévérance et la patience. Et là, on voit qu'Abraham, il a dû attendre très longtemps. On va lire Hébreux 6, versets 12 à 15. « Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui-même, il a juré par lui-même. » en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. En fait, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, on ne sait pas quel âge il avait. Il était à Ur en Chaldée et il est allé d'abord à Charan. Et là, ça faisait déjà plusieurs centaines de kilomètres entre les deux. À Charan, il a acquis des biens. Ses troupeaux se sont multipliés, il a acquis des serviteurs. Donc il est resté certainement un certain nombre d'années à Charan, jusqu'à la mort de son père. Et on sait que quand il a quitté Charan, il avait 75 ans. On l'a lu tout à l'heure dans la Genèse. Mais dans Acte 7, les versets 2 à 5, Acte 7, 2 à 5, Étienne répondit, « Mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. » avant qu'il ne s'installe à Charan, elle lui a dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il a promis de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. » Alors, on reviendra tout à l'heure là-dessus, c'est important aussi de voir. Et quand Isaac, le fils de la promesse, est né, Abraham avait 100 ans. Donc, on peut en déduire que quand Dieu lui a fait la promesse d'une descendance, eh bien, c'était plus de 25 ans en arrière. Parce que quand il a quitté Charan, il avait 75 ans, donc il y a déjà eu 25 ans jusqu'à la promesse. Mais Dieu lui a parlé quand il était à Ur en Chaldée, et elle lui a fait la promesse à ce moment-là. Donc, il a attendu la réalisation de cette promesse pendant plus de 25 ans, peut-être pendant 30 ans, peut-être même plus. Il a vraiment eu besoin de persévérance et de patience. Donc voilà ces trois mots, obéissance, foi, persévérance. C'est déjà les conditions pour la promesse. Maintenant, le deuxième point, c'est le temps de Dieu. Alors, le temps de Dieu, ce n'est pas la même chose que notre temps à nous. Dieu, il n'a pas le même agenda que nous. Nous, on note tous les trucs, puis voilà, un jour ça, et puis les mois, les jours, les années. Mais pour Dieu, le temps, il est différent. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de patience et de persévérance, parce que nous, on aimerait bien avoir les choses tout de suite, mais parfois, ça prend beaucoup plus de temps. Donc on pense à Abraham, bien sûr, qui a attendu longtemps pour avoir Isaac, mais on peut aussi penser à Joseph. Joseph, quand il a eu ses rêves, qu'il voyait en rêve ses frères et ses parents se prosterner devant lui, eh bien, d'ici que ça se réalise, ben, il a fallu des années. Il a fallu toute la période où il était esclave en Égypte, au service de Pharaon. Ensuite, il est devenu gouverneur d'Égypte. Ensuite, ses frères sont descendus parce qu'il y avait la famine, etc. Hein, donc, on peut lire tous ces récits dans la Genèse. Et il s'est passé des années avant que cette promesse s'accomplisse. Et puis, David, Dieu lui avait promis la royauté. Il était oint par Samuel comme roi d'Israël pour succéder à Saül. Mais jusqu'à ce qu'il soit roi de tout Israël, il a fallu des années pendant lesquelles il était aussi en fuite devant Saül. Et voilà, c'était compliqué. Et ce temps de patience, c'est un temps aussi de formation. Le Seigneur, il travaille en nous, il nous forme pour que le moment venu, on puisse vraiment recevoir cette promesse et bien gérer ce qu'il nous demande de faire. Il faut que des choses se mettent en place aussi parfois. Et tout ça, ça prend aussi du temps. Le Seigneur, il a toujours ses raisons lorsqu'il semble tarder. Et c'est ce qui est dit aussi dans 2 Pierre 3, les versets 3 à 4. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront où est la promesse de son retour. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Et on passe au verset 8 et 9. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Voilà, ça c'est un verset qui est tiré du psaume 90. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, si Dieu il a de la patience, ben, je pense que nous, on peut aussi en avoir un petit peu. Hein? Et puis, le verset 13. « Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Voilà, donc le temps de Dieu. Le troisième point, c'est la manière de Dieu. Dieu accomplit toujours ses promesses, mais pas toujours et même pas souvent comme on pense, nous, qu'il va le faire. Donc, ces plans, ils dépassent vraiment notre logique humaine. On va lire Ésaïe 55, les versets 8 à 11. Dieu dit, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel. » Elle n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Donc là, on voit aussi que Dieu est fidèle à ses promesses. Et voilà, qu'il faut du temps. Ben, c'est vrai quand la pluie descend sur la terre, il n'y a pas tout de suite les plantes qui germent, il n'y a pas tout de suite les fruits. Hein, il faut du temps. Et puis, la manière de Dieu, donc, je prendrai deux exemples bibliques que je vais juste citer, on ne va pas lire les textes. C'est celui de la résurrection de Lazare. Voilà, Lazare tombe malade et ses sœurs, Marthe et Marie, envoient quelqu'un vers Jésus parce que lui, il est à plusieurs kilomètres de là. Ils l'envoient chercher et elles ont la foi que Jésus va venir guérir leur frère. Alors, elles l'ont fait venir, mais Jésus, il apprend que Lazare est malade et il ne va pas tout de suite venir, il va encore attendre 2 jours. Et ensuite, quand il viendra, quand il arrivera sur place, ça fait déjà 4 jours que Lazare est mort et puis ça commence à sentir mauvais. Mais Jésus, il savait que Lazare était mort, mais il savait aussi qu'il allait le ressusciter. Et il a ressuscité Lazare et c'était un miracle beaucoup plus grand que s'il était venu avant puis qu'il l'avait guéri. Donc, Dieu est fidèle, mais il agit souvent autrement que ce qu'on imaginait. Et on voit que, oui, ces deux sœurs, elles avaient vraiment la foi. D'ailleurs, elles ont dit à Jésus, quand Jésus est arrivé auprès d'elles, elles ont dit, si, les deux ont eu la même phrase, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Elles avaient la foi. Mais voilà, le plan de Dieu était différent. Et il était beaucoup plus grand. Et puis c'est pareil en ce qui concerne le plan de salut pour Israël et pour les nations. Dieu a permis qu'Israël tombe dans l'endurcissement, qu'il ne reconnaisse pas le Messie, pour que le salut soit accessible à chacun de nous, à toutes les nations. C'est dans Romains 11. C'était dans Jean 11, la résurrection de Lazare, et dans Romains 11, c'est au sujet d'Israël et du salut. Et puis, le quatrième point, perspective humaine et spirituelle. Alors, parfois, malgré tout, les promesses de Dieu, on ne les voit pas s'accomplir. Et puis, alors, comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là? Par exemple, une personne malade pour qui on a prié, on a eu la foi, et puis cette personne décède quand même. Ou bien un chrétien qui meurt dans un accident. Ou bien des chrétiens qui se trouvent dans le besoin. Alors voilà, le Seigneur, il n'a pas guéri, il n'a pas protégé, il n'a pas pourvu. Puis là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne joue pas, ce n'est pas logique. Et voilà, je crois qu'on connaît tous ce genre de situation. Hein. On a tous été confrontés un jour ou l'autre à des choses comme ça. Et c'est vrai que ça pose des questions. Mais ces questions-là, il y en a beaucoup avant nous qui se les ont posées. Hein. Si on lit les psaumes ou le livre de Job, on voit aussi ces interrogations. Mais Seigneur, voilà, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas logique. Ça ne colle pas avec notre doctrine, avec notre théologie. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, loin de là. Hein. Donc, voilà, il y a quand même des choses qu'on ne comprend pas. Mais ce que je vois dans la parole, c'est que c'est vrai que c'est des cas qui se sont aussi produits. Même l'apôtre Paul, pourtant, alors si quelqu'un avait la foi, c'est bien lui. Hein. Mais il n'a pas toujours obtenu ce qu'il avait demandé, dont il avait besoin. Par exemple, le Seigneur ne lui a pas enlevé son écharpe dans la chair. Et puis, il a vécu beaucoup d'épreuves. Il en fait toute une liste dans 2 Corinthiens 11, toute une liste de ce qu'il a vécu. Hein, 3 fois naufrage, je ne sais pas combien de fois lapidé, etc. Je lirai juste le verset 27, ça résume un petit peu tout ce qui est avant. Il dit « J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. » C'est pas mal comme tableau, hein? Ça ne nous fait pas trop envie finalement. Hein? Mais c'était quand même la réalité de ce que vivait l'apôtre Paul. Et dans Philippiens 4, les versets 12 à 13, il dit « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. J'ai appris. Et il dira « Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. » Mais j'ai appris. Et on sait que c'est difficile d'apprendre. C'est jamais facile d'apprendre, que ce soit n'importe quoi. Alors, comment comprendre ça? Comment comprendre? Il y a quelque chose qui nous dépasse. Alors, je crois que premièrement, je crois qu'il faut qu'on comprenne que les promesses de Dieu sont des principes généraux et pas des principes absolus. C'est-à-dire que oui, en général, Dieu guérit, Dieu protège, Dieu pourvoit, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais malade, qu'on n'aura jamais d'accident, puis qu'on aura toujours tout ce dont on a besoin. On peut passer par des périodes où ces choses-là, on est dedans. Dieu est souverain et c'est lui qui décide et il est au-dessus de sa parole finalement. Il n'est pas obligé de nous donner les choses. J'ai une fois entendu quelqu'un dire, oui, quand Dieu fait une promesse, il est en quelque sorte obligé de l'accomplir. Mais non, Dieu est obligé de rien du tout. Dieu, il est Dieu. Autrement, il ne serait pas Dieu s'il était obligé de quelque chose. On est d'accord, hein, c'est lui qui décide. Et il permet justement parfois ces temps où les choses ne s'accomplissent pas pour nous former et aussi pour tester notre attachement à lui. S'il nous donnait toujours tout de suite, finalement, on l'aimerait plus pour ce qu'il donne que pour qui il est. Voilà, les parents, ils ne donnent pas tout à leur enfant non plus. Parce que l'enfant, il doit grandir en maturité, il doit apprendre à gérer les frustrations. Alors, au jour d'aujourd'hui, dans l'éducation, oui, il faut que l'enfant, il ne faut pas qu'il soit frustré. Mais c'est tout faux. S'il n'apprend pas à être frustré, mais adulte, ça va donner quoi? Au secours, hein, je ne sais pas vers quoi on va. Mais voilà. Et finalement, est-ce que l'enfant va ne plus aimer ses parents parce qu'ils ne lui ont pas donné quelque chose? Ah non, je ne crois pas. Donc, est-ce qu'on aime Dieu pour ce qu'il nous donne ou pour qui il est? Et puis, deuxièmement, eh bien, Dieu il voit les choses dans une perspective différente que la nôtre. Nous, on a une perspective limitée parce que nous sommes limités en tant qu'humains. Et Dieu, il nous appelle à voir au-delà des choses présentes, avoir une perspective d'éternité, de voir ce qu'il nous réserve dans les cieux. Parce que c'est dans les cieux que tout sera parfaitement accompli. Et il y a des textes qui sont très explicites par rapport à ça. C'est dans Hébreux 11, tout d'abord les versets 8 à 10. Donc de nouveau Abraham, c'est vraiment notre modèle. Hein. Je crois qu'Abraham est aussi souvent cité dans le Nouveau Testament. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc il voyait plus loin. Il voyait, oui, ce pays, Dieu va le donner, il a promis, mais c'est que sa descendance qui a hérité le pays, en fait. Lui, il a hérité par la foi, il a cru, mais il ne l'a pas possédé. Isaac et Jacob non plus. Ils ont parcouru le pays avec leurs tentes, leurs troupeaux. Par la foi, ils ont cru que Dieu donnerait ce pays à leur descendance, mais eux-mêmes, ils ne l'ont pas possédé. Qui c'est qui a possédé le pays? C'est leurs descendants, mais plusieurs centaines d'années plus tard. Il y a eu toute la période où les Hébreux étaient esclaves en Égypte, esclaves de Pharaon. Ça a duré plus de 400 ans. Puis ensuite, il y a eu toute la traversée du désert pendant 40 ans. Puis ensuite, ils sont arrivés en Canaan, mais ils ont dû conquérir le pays. Ça ne leur a pas été donné comme ça. Ils n'ont pas posé le pied, puis c'était à eux. Ils ont dû conquérir le pays. Puis bon, ils n'ont encore pas fini, hein. Voilà, sinon il n'y aurait pas les guerres. On est d'accord. Hein. Donc cette promesse, elle s'accomplit, mais eux, on n'a pas vu la couleur, si j'ose dire. Mais ça s'accomplit pour leurs descendants. Mais par la foi, ils ont vu qu'il y avait autre chose derrière. Que Dieu leur donnait un pays à leurs descendants, un pays physique, mais qu'il y avait aussi spirituellement un pays promis, une cité céleste. Les versets Hébreux 11, toujours, les versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Et ce quelque chose de meilleur, oui, la patrie céleste, le royaume des cieux, et la récompense céleste aussi. Et dans son sermon sur la montagne, dans les Béatitudes, Jésus, il en parle. Il dira, par exemple, dans Matthieu 5, les versets 10 à 12, je ne sais pas si j'ai mis pour le bimère, Matthieu 5, 10 à 12, peut-être pas. Enfin, Jésus dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mais réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Hein? » Votre récompense sera grande. Donc, on peut être heureux de ce qui va venir après, hein? Même si en ce moment c'est difficile. Considérez le futur, ce que Dieu nous réserve dans le ciel. Donc, les promesses divines, si elles s'accomplissent pas ici-bas, elles s'accompliront dans l'éternité. Hein. Et nous aurons la récompense d'être restés attachés au Seigneur. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas tant d'obtenir les choses maintenant. Alors, tant mieux si les promesses de Dieu s'accomplissent pour nous maintenant. On peut s'en réjouir, gloire à Dieu. On peut le louer pour ça. Mais on sait que dans l'éternité, ce sera pleinement accompli. C'est comme les assurances. Je vais prendre un exemple. Par exemple, les assurances sociales. Alors, quand vous recevez votre fiche de paye, il y a le salaire brut. Ça correspond à ce qui vous revient, en fait, ce que vous avez travaillé, ce que vous avez gagné. mais vous ne recevez pas le salaire brut, vous recevez le salaire net, parce qu'il y a les déductions sociales. Et ces déductions sociales, c'est de l'argent qui est mis de côté en cas ben justement de maladie, d'accident, de chômage ou de rente vieillesse. Hein. Donc c'est de l'argent que vous allez toucher, si vous vivez assez longtemps, si tout va bien, que vous allez toucher après, et puis ce sera majoré, vous allez toucher plus que ce que vous avez cotisé. Oui, on espère, oui. Voilà, et c'est un peu la même chose. Dieu nous donne des bénédictions maintenant, il accomplit des promesses pour nous maintenant, ici-bas. C'est comme un peu le salaire net, et puis le salaire brut, ben, il y a la récompense future. Voilà, pour prendre une image qui est ce qu'elle vaut. Hein. Voilà. Mais pour bien comprendre que voilà, on reçoit des choses maintenant, mais on reçoit aussi des choses dans l'éternité. Donc, on peut vraiment continuer de croire et d'affirmer que Dieu est fidèle. Oui, Dieu accomplit ses promesses. On le croit. Dieu guérit, Dieu protège, Dieu pourvoit. Et on le proclame, on le chante et on doit continuer à le faire parce que c'est vrai, c'est la vérité. Voilà. Mais bien sûr qu'il y a des conditions, comme je l'ai dit, hein, foi, obéissance, patience, persévérance. Il y a le temps de Dieu. Il fait toutes choses belles en son temps. Il accomplit les choses en son temps. Il y a la manière. Il fait à sa manière, qui n'est souvent pas notre logique à nous. Et puis, bah même s'il ne le fait pas ici-bas, dans l'éternité, il le fera. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y aura plus ni souffrance, ni deuil, ni maladie, ni danger, ni manque de quoi que ce soit. Il y aura tout en abondance et on peut se réjouir d'avance de ça. Et on est vraiment appelé à changer notre regard, à ne pas voir juste ben, ce qu'on vit maintenant, parce que ce n'est pas toujours drôle, mais voir plus loin, voir la suite, au-delà. Et Dieu ne nous demande pas d'obtenir des résultats, parce que les résultats, ça lui appartient. Sinon, on se glorifierait. Hein. Peut-être si on avait toujours tout, on se dirait « Ah, mais moi, j'ai la foi, je suis bien. » Non. C'est la gloire, elle doit revenir à Dieu seul. Mais voilà, Dieu tient en compte notre foi, notre obéissance, notre patience, notre persévérance. Et puis, oui, ce qu'on n'a pas lu, c'est les versets de Hébreux 11, 32 à 40. Je vais finir par là. Donc, il y a toute la liste dans Hébreux 11 de ceux qui, par la foi, ont obtenu des choses. Et puis, ça, voilà, c'est aussi etc. Hein. Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. C'est pas mal, hein, comme palmarès. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Ah, mais maintenant, ça change. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, ainsi ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Voilà, je vous avoue, je ne comprends pas tout dans ce texte, hein. C'est un peu compliqué, mais ce que je comprends, c'est que lorsque nous avons foi en Dieu, et foi et fidélité, c'est aussi le même mot, hein. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, Dieu considère ça. C'est ça qui est important pour lui, c'est qu'on reste attaché à lui, puis le reste, ça lui appartient. Donc, aimons Dieu, pas seulement pour ce qu'il donne, pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. C'est notre Dieu. Voilà, je vais terminer par la prière. Oui, Seigneur, on veut proclamer que c'est vrai, tu es un Dieu fidèle, et tes promesses, tu les accomplis. Et Seigneur, je te remets, ouais, ceux parmi nous, Seigneur, parmi mes frères et sœurs ici, qui peut-être ont été déçus, qui peut-être se posent des questions, qui peut-être se culpabilisent ou sont découragés parce qu'ils ne voient pas les choses s'accomplir ou parce qu'ils ont vu que ça ne s'est pas accompli ici-bas. Seigneur, que tu puisses encourager chacun, chacune, Et Seigneur, que tu nous aides à chacun de nous à voir au-delà, à voir ce que tu nous réserves dans l'éternité et à rester attaché à toi, Seigneur, pour qui tu es, à te rester fidèle, à Seigneur t'aimer pour qui tu es et pas seulement pour ce que tu donnes ou ce que tu fais, parce que tu as déjà tout fait pour nous en Jésus-Christ. Tu as déjà fait tellement, Seigneur, on peut déjà être tellement reconnaissant. Alors, Seigneur, merci d'encourager chacun ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.